Si vous êtes déjà venu au Paléo, vous connaissez certainement notre invité de ce soir. C'est le présentateur de la grande scène. Bonsoir Mick.
Salut.
Salut.
Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, c'est-à-dire nous dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais quand t'es pas à Paléo ?
Oh là, c'est une grande question. C'est vrai que Paléo, j'y suis depuis au-delà de 25 ans. 24 plus précisément. Je travaille beaucoup dans le domaine aussi de la musique ou de l'organisation. Je participe à d'autres festivals. Mais dans ma vie aujourd'hui, puisque j'ai toujours été un bricoleur, travailleur, menuisier, je travaille maintenant à la télévision. On appelle ça des machinistes, en fait. Tu t'occupes de faire les changements de décor, changements de plateau, structure métallique, en fait, tout ce qui est la mise en place des décors à la RTS.
Alors, tu viens de dire que ça fait 24 ans maintenant que tu travailles pour Paléo, mais pour la grande scène, c'était dès le début ou quel a été ton parcours jusque-là avant?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé ici par l'intermédiaire d'un ami, en fait, qui connaissait Daniel Rosselin. Et quand je suis arrivé ici, au tout début, c'est là que j'ai appris comment dire 90, parce qu'à Québec, on dit 91, là, mais je suis arrivé en fait en 90 pour le festival 91. Et à ce moment-là, je m'occupais, moi, de tous les planchers de bois qui sont devant les stands, monter les cantines. Par la suite, j'ai fait dans l'infrastructure les structures métalliques, parce qu'on faisait beaucoup, les structures d'entrée maintenant sont faites, ou les scènes même sont faites par des professionnels. Mais il n'y a pas si longtemps, il y avait encore beaucoup de bénévoles qui travaillaient avec des professionnels pour monter les scènes, les structures métalliques. Et puis, quand il y a eu la nouvelle scène du Dôme, qui était le Dôme avant d'être le visage du monde, c'est là que ça a commencé, parce que je connaissais un peu tout le monde. Il y avait préparé toute une équipe technique et il avait oublié d'avoir quelqu'un pour présenter. Donc, c'est la dernière minute qu'ils m'ont dit « Mais tu veux pas essayer de… » Donc, j'ai dit « Ouais, peut-être, on va essayer. » Puis finalement, il s'est avéré que c'était quand même une belle expérience. Et je suis devenu régisseur du plateau pendant 6 ans et j'annonçais aussi. Et puis, à un moment donné, il y a la personne qui était ici à la grande scène, est partie pour des raisons X que je connais pas. Et puis, ils m'ont dit « Mais tu voudrais pas venir à la grande scène? » Donc, du coup, ça m'intéressait, mais en même temps, je perdais ma famille. Parce qu'à Paléo, il y a toujours des familles. Tu fais partie de la famille, du bar, la famille, des parkings, la famille, de la sécu. Et puis moi, c'était le Dôme, c'était ma famille. Donc, je voulais pas trahir personne, mais en même temps, il y avait l'opportunité de venir à la grande scène, ce qui est quand même quelque chose d'assez spécial. D'autant plus que moi, dans ma vie, c'est pas je suis pas un professionnel dans le domaine. Je fais ça à Paléo. Donc, ça a commencé là, puis ça fait 13 ans que ça dure.
Donc, à Paléo, tu te charges maintenant sur la grande scène. Est-ce que tu fais essentiellement de la présentation des artistes ou qu'est-ce que tu fais d'autre derrière la grande scène?
Justement, quand je te parlais de grande famille, c'est qu'il faut savoir qu'à la grande scène, il y a environ une trentaine de techniciens, en fait, techniciens de bénévoles, de roadies qu'on appelle. Et puis, puisque justement, qu'on fait dans les premiers jours, le samedi, le dimanche, c'est la préparation de la scène, monter la lumière, monter le son. Et puis, puisque moi, j'ai tous mes petits outils puis que je m'occupe de ça, nous, on a notre endroit, hein? De cette grande famille qui est la grande scène, qu'on appelle le Golden Bar. Et puis donc, moi, je fais l'aménagement de l'espace de vie des gars qui travaillent sur la scène. Donc, durant qu'eux montent le matériel, durant les premiers jours d'installation, moi, je m'occupe de monter le bar, de faire la mise en place. Et quand on tombe dans la configuration jour de festival, à ce moment-là, je deviens que le présentateur.
Et justement, comment tu prépares tes textes? Est-ce que tu les écris toi? Est-ce que tu les écris d'abord? Ou est-ce que c'est les managers qui disent « il faut dire ça » ?
Déjà, la problématique, c'est pas d'office. Et il y a des gens pour qui, une annonce, tu sais pourquoi on ferait une annonce? Parce qu'ils n'en font pas, c'est des tournées, c'est des gros groupes. Ce problème arrive plutôt à la grande scène, parce qu'au Club Tent ou n'importe quoi, les artistes ont comme intérêt à dire « mais dis-leur qui je suis, fais-les venir ». Ici, c'est genre, les grosses tournées, ils s'en foutent carrément d'une annonce, eux, ils veulent arriver sur scène puis faire leur truc. Donc moi, le challenge que j'ai dans l'après-midi, c'est non pas d'aller voir les artistes, parce que c'est pas eux qui gèrent ça, c'est toutes les gens qui les entourent, la production. C'est d'aller les voir puis de leur dire que le festival a un fonctionnement où ça a toujours été comme ça, que tu as une présentation avant le début du concert et que ça serait super cool. Même s'ils font pas d'habitude, que éventuellement, peut-être, ça serait bien s'ils laisseraient faire une présentation. Donc certains acceptent, comme Johnny, ils font jamais. Et puis hier, j'ai dit au gars, parce que je le connais, je l'ai déjà vu, c'est un peu les mêmes équipes techniques souvent qui reviennent. Puis le gars, je le connaissais, puis il dit non, nous on fait pas. Je dis, hey, Paléo, 40e, mon gars, quand tu commenceras pas à faire la… Il dit, ça serait cool, tu sais. Il dit, OK, on va faire. Donc, ça tient sur rien, puis effectivement, la manière pour… À partir de l'instant où je sais que je le fais, parce que je me prépare des tonnes d'avance, ça donne absolument rien. Donc, c'est selon la journée, selon l'inspiration, selon une météo mauvaise, selon plein de circonstances que je travaille un petit texte pour que ça ait de l'air facile.
Est-ce qu'après toutes ces années de présentation, tu stresses encore quand tu montes sur scène?
Totalement, à toutes les fois. C'est toujours… parce que, si tu veux, plus les années avancent, plus j'ai le bénéfice que ça a toujours assez bien marché. Donc, il n'y a jamais personne qui m'a dit, enfin, jamais personne. On parle dans l'organisation, je dis, bon, ma foi, je fais ce que je fais, on ne commencera pas à faire des courbettes à tout le monde. Mais le jour où je vais me planter, je vais entendre parler. Et j'espère que ça n'arrivera pas bientôt.
Tout le monde te connaît, en fait. Tous ceux qui sont venus à Paléo te connaissent. Qu'est-ce que ça te fait de te faire reconnaître, j'imagine, dans le festival, si tu te balades comme ça?
Écoute, je suis assez fier, finalement, de faire partie de Paléo, d'en être quelque part involontairement l'image. Et puis souvent, quand je me promène, il y a des gens qui me disent « Ah, mais on s'est peut-être déjà vu quelque part. » Donc, je commence déjà en disant « Mais peut-être Paléo, hein, parce que ça peut être ailleurs aussi. » Et puis, je me rends compte aussi, mon âge avançant, non, mais qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est « Ah, monsieur Paléo, tu sais. » Puis, tu sais, mais moi, je parle volontiers avec tout le monde parce que je trouve qu'au-delà de ce que je fais, je trouve assez sympathique qu'il y a des jeunes qui me disent « Ouais, c'est super cool ce que vous faites. » Puis en même temps, tu parles avec les gens. En fait, ça ne demande pas grand-chose. Puis c'est tellement… j'aime ça.
Donc, ça fait longtemps que tu travailles dans les coulisses de Paléo et avec des artistes, en tout cas les productions des artistes. Est-ce que tu aurais une anecdote de coulisses ou quelque chose d'improbable que tu aurais vécu pendant toutes ces années à Paléo?
Ben, en fait, c'est pas des grosses anecdotes, mais c'est que il y a des artistes en fait qui sont pas qui on pense qu'ils sont. Il y a des auras qui règnent sur certaines personnes. Si on parle de Tracy Chapman, il y avait des consignes qu'il fallait pas la regarder dans les yeux parce qu'elle pouvait annuler carrément le concert. C'est donc la grosse paranoïa, c'était marqué partout dans les loges. Je dis, mais attends, mais c'est quoi c'est? Alors que ces chansons sont bonnes, tu vois pas la fille comme ça. Ou de voir quand il y a eu The Cure, puis tu vois Robert Smith l'après-midi, tu sais, au gros soleil, tu sais, avec son rouge à lèvres qui déborde, tu sais, un peu grassouillet. C'est pas l'image que t'as gardée, tu sais, du truc. En même temps, c'est drôle parce que cette semaine, il y avait Sting. Et puis moi, dans ma tête, Sting, le gars, c'est le blondinet, tu sais. Mais là, il est rendu qu'une immense grosse barbe. Il était à côté de moi avant de monter sur scène. Bon, j'ai dit, bon, c'est un musicien, tu sais. Je suis allé faire l'annonce. Puis à un moment donné, les musiciens sont rentrés, puis ça a commencé, puis ça a chanté. J'ai dit, mais je l'ai pas vu. Puis à un moment donné, j'ai regardé, mais j'ai dit, putain, mais c'est lui. C'est lui qui avait la grosse barbe, il était juste à côté de moi, tu sais. C'est un peu rigolo, ces trucs-là. Ouais, il y a plein de petites histoires. Mais souvent, ça baigne dans un aura. On se dit, ouais, tu vois les stars derrière, mais tu les vois pas tant que ça. Tu vois surtout les équipes techniques qui s'en occupent, puis les gars, ils arrivent souvent plus tard. Puis bon, il y a des belles rencontres, il y a des belles choses aussi. Mais...
Et donc, tu as dû certainement voir des tas et des tas de concerts. C'est quoi le concert dont tu te rappelles? Toute ta vie.
Ouf, je te dirais que tout de suite là, l'année dernière, il y a un truc qui m'avait vachement impressionné. Le gars, il s'appelait Sissik Steve. Et toute l'après-midi, je l'ai vu, une espèce de farmer avec sa grosse barbe, le t-shirt déchiré. Il a fait le tour du site, il se promenait partout. Puis le soir, il est arrivé, tac, ok, c'est le temps d'y aller. Il est monté sur scène, pas changé rien, en fait, comme d'hab, quoi. Avec toutes ses guitares faites avec des pièces de bagnoles, de radiateurs, de trucs. Puis, tu sais, c'était super bon. Une espèce de leçon d'humilité en même temps. Tu sais, t'as une guitare faite avec trois bouts de cordes puis des bouts de radiateur. Puis, c'est super bon, tu vois. Et puis, une aisance, un truc. Puis, le gars, il était à la fin. Il y avait tellement de monde, puis ça avait tellement marché. Mais les gars, il y avait son batteur, puis lui. Mais il y avait un sourire, les gars. Tu sais, c'était beau. Le concert avait été bon, puis les gars étaient subjugués de comme ça avait bien marché. Et ça, c'est peut-être plus ça qui m'intéresse. C'est certain qu'il y a eu des muses, il y a eu des gros trucs intéressants, mais là il y a plus de l'humain, en fait, les mecs qui sont pas blasés, au contraire.
On a un petit concept cette année pour Paléo. Ça s'appelle une chanson pour une banane, normalement. On demande à tous les artistes de créer une chanson ou quelque chose, une hymne à la banane. Donc si tu veux, tu peux chanter, tu peux parler, tu peux présenter la banane pour gagner un bonbon banane.
Elle est belle, elle est jaune, elle se laissera éplucher et sera tendre dans votre bouche jusqu'au bout de la nuit. Voici Madame la Banane.
Merci beaucoup, donc t'as gagné un moment.
Ouais, j'ai gagné ma banane.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette petite interview.
C'est cool, ça m'a fait plaisir, moi aussi.